Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On arrive avec un sujet là, qui devrait vous interpeller là, parce qu'on est dans la période un peu là, de la semaine de relâche, les enfants sont à la maison. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont trop bruyants? Moi, oui, je trouve que vos enfants sont trop bruyants. Je suis pas encore mère, je les trouve bruyants. Je sais que je vais devenir mère éventuellement, puis je vais trouver les miens bruyants aussi. Je sais très bien que j'ai un profil de mère indigne qui se dessine comme ça. Mais plus sérieusement, on a appris là qu'une chercheuse de l'UQAM souhaite sensibiliser les jeunes au bruit qu'ils produisent et à l'environnement ambiant. Elle s'appelle Pascale Godet et elle est avec nous ici en studio pour nous faire part de ses découvertes. Bonjour Pascale.
Bonjour.
Bonjour. Donc vous avez étudié le phénomène du bruit des environnements bruyants, mais causé par les enfants. Qu'est-ce qui a nourri votre envie à la base d'étudier ce phénomène-là? Est-ce qu'il y avait un événement déclencheur? Est-ce que vous étiez tannée? Est-ce que vous côtoyez des enfants dans votre entourage?
Disons que, étant enseignante en éducation musicale, je me suis aperçue que les enfants parlaient de plus en plus fort, ne savaient plus chuchoter et avaient, comment dire, un rapport au son qui était vraiment différent par rapport, par exemple, au mien quand j'étais enfant.
Mm-hmm. Parce que vous êtes enseignante en éducation musicale, doctorante aussi en études et pratiques des arts, donc c'est un milieu quand même que vous connaissez bien. Vous appuyez, entre autres, vos recherches sur le concept d'écologie sonore. J'avais vraiment jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, l'écologie sonore, c'est un concept qui est inventé par le compositeur canadien Murray Schafer dans les années 70. Et il le définit de la façon suivante, c'est-à-dire c'est les relations qu'entretiennent les êtres humains avec leur environnement sonore.
Mm-hmm. Et puis là, c'est ça. Donc, comment ça s'est déployé, là, cette espèce d'étude-là? Comment vous avez fait ça?
Disons que moi, j'ai d'abord observé le terrain dans lequel je suis arrivée, c'est-à-dire l'école dans laquelle je travaille, ou dans les parties communes où se retrouvent tous les enfants. C'est extrêmement bruyant à cause de l'acoustique des bâtiments, parce qu'ils sont très nombreux dans les couloirs, etc. Donc, après cette observation-là, je me suis dit qu'il était urgent d'agir.
Mm-hmm.
Donc, ayant quand même fait beaucoup d'études musicales et étant sensibilisée à l'écologie sonore et à la musique concrète, je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec les enfants sur ce concept-là et de leur apprendre ce que c'était que le son.
OK. Ouais. C'est quand même abstrait là, pour un enfant là, d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire le son. J'ai de la misère moi en tant qu'adulte à déterminer qu'est-ce que c'est le son.
Mais c'est-à-dire leur faire comprendre que le sens qui est l'ouïe est un sens qui est aussi important que celui de la vue. Et qu'il est important, donc, d'apprendre à s'en servir.
Ouais. C'est parce que vous dites quand même, là, qu'on est en ce moment en train, là, de former une génération de malentendants parce que les environnements sonores sont tellement, tellement oppressifs. Est-ce que vous croyez vraiment à ces déclarations-là? Parce que c'est quand même gros, là, de dire.
Oui, je pense que la pollution sonore ambiante nous empêche de prendre conscience de micro-sons tels que les sons de notre corps, tels que les pas quand on marche, tels que la brise du vent, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on oublie que ça existe, on oublie de focaliser sur ces types de sons.
Mm-hmm. C'est ça que vous dites, entre autres, qui est vu aussi de plus en plus normal de parler haut et fort. Puis là, je me sens mal parce que il me semble que je bugle dans le micro depuis le début de l'émission et on s'en rend pas compte,
c'est ce que
vous voulez dire.
C'est-à-dire qu'on en prend l'habitude.
Ah, c'est ça. Puis on finit par le banaliser. Vous avez réalisé, là, dans le cadre de votre projet d'éducation sonore, une série d'activités à faire en classe pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu?
Oui, alors il y a différents types d'activités qui sont menées simultanément. C'est ce qui fait un peu la force du projet. Donc des activités sanitaires, c'est-à-dire qu'on explique aux enfants comment fonctionne l'oreille, quel que soit leur âge. On leur explique aussi comment fonctionne le son quand il est enfermé ou quand il est dans un espace libre. Ensuite, on a des actions de vivre ensemble. Donc on a inventé un permis sonore de circuler justement pour réguler les flux sonores dans les parties communes. Et puis après, il y a des actions pédagogiques à proprement parler, où à l'intérieur des cours, on propose des actions interdisciplinaires où le son est à la base de toutes les actions pédagogiques. Et tout se fait par le médium, on va dire, de l'art, donc le son mélangé aux mathématiques ou le son avec le français. Et donc, on peut avoir des actions de type promenade sonore ou écoute les yeux bandés. On peut avoir on travaille sur les partitions graphiques. On peut travailler sur l'archéologie sonore, c'est-à-dire sur des objets désuets, anciens. musiciens et travailler leurs paramètres sonores, en arriver à des créations artistiques.
Puis dites-moi, parce que là, évidemment, quand on pense au son, au problème des environnements sonores, trop sonores, on pense aux décibels, on pense à l'oreille, effectivement, mais j'imagine que ça doit nuire au développement de l'enfant dans d'autres sphères aussi.
Oui, on s'est aperçu, bon, j'ai pas de données probantes, mais des données, par contre, empiriques, j'en ai beaucoup. En fait, tout le monde s'accorde à dire que les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés, et que donc, bien évidemment, leur concentration aussi est
maximisée.
Oui.
Puis on imagine que les professeurs aussi sont beaucoup plus calmes et apaisés. Vous devez avoir des échos, en fait, de ce projet-là autour de vous.
Oui, tout à fait. Puis on a intégré aussi la langue des signes, puisqu'on leur demande à certains endroits de faire le silence pour ne pas nuire aux classes qui travaillent lorsqu'ils traversent les couloirs. La langue des signes est un bon moyen, enfin bon, moi je crois à son enseignement, est un bon moyen pour justement discuter dans les couloirs sans produire de son.
Est-ce que vous pensez, puis là je reviens à la question là par rapport à l'impact sur les enfants là, que les fameux troubles de les TDA là, dont on parle, c'est ça, TDAH et TDA aussi, parce qu'il y a pas toujours l'hyperactivité, qui sont super répandus dans les écoles à un point tel où on crée un surdiagnostic, mais pensez-vous qu'il peut avoir des fondements liés à la distraction par le bruit?
Ben disons que moi j'ai fait une expérience qui m'a marquée justement dans l'expérience que j'ai faite d'écoute sonore les yeux bandés, donc j'ai bandé les yeux des enfants, et il s'avère que dans la classe il y avait deux enfants à profil particulier, et le fait d'enlever la vue leur a permis pendant on va dire une demi-heure, le temps de l'activité, de vraiment faire le focus sur le son. Et ce sont des élèves qui d'habitude sont plutôt lunaires ou n'ont pas vraiment l'impression d'être connectés avec nous en classe, mais là, étaient à 100% de leurs moyens.
Ah ouais, hein, quand même, c'est fascinant. Et dites-moi, vous avez mis sur pied une dictée des sons. Et ça, je trouve ça très, très intriguant. À quoi ça ressemble dans le cadre dans vos activités?
On bande les yeux des élèves, on leur fait écouter des sons de leur environnement. Et puis, on leur demande juste de les décrire avec un vocabulaire précis de localisation, un vocabulaire sonore, musical, de façon à enrichir le vocabulaire de l'enfant.
Puis là, vous êtes au Collège international Marie de France. Espérez-vous que votre initiative fasse des petits? Est-ce que vous avez eu des échos d'intérêt pour d'autres écoles ou d'autres milieux, en fait?
Le projet est en train de... Enfin, on est en train de commencer à parler du projet, donc j'espère effectivement que ça fera des petits, puisque mon projet pédagogique et artistique en tant que doctorante, c'est de développer un modèle d'enseignement qui pourrait être transposable dans les
ailleurs.
Oui.
Puis dites-moi, au niveau de la perception des enfants, est-ce qu'ils sont réceptifs là?
Complètement, ils sont en demande.
Ils trouvent pas ça trop barbant là, de garder le silence là, puis de faire attention de pas déranger les autres?
Je pense que la problématique, c'est pas forcément celle du silence, c'est d'être capable de respecter les environnements sonores en fonction du lieu où on est. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément leur demander d'être muselés, mais de se dire, bon, à cet endroit, je vais chuchoter et non pas parler excessivement fort. Ou là, par contre, je dois faire le silence parce que cet endroit-là me le demande ou l'activité que je fais me le demande.
Puis là, je pense aux parents là, qui sont à l'écoute de l'émission en ce moment parce que, bon, oui, il y a le confort de la classe, hein, cette expérience-là qui est vécue dans une salle de classe. Mais à la maison, quand on sait, par exemple, que les enfants sont en contact avec des jouets, des jeux vidéo, des jeux à l'ordinateur qui produisent énormément de bruit aussi, même à l'extérieur, dans notre environnement, qu'on se promène dans la rue, c'est agressant aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents, là? Quels conseils vous avez à leur donner concernant l'éducation au bruit?
Je pense que ce qui est problématique avec les enfants, c'est l'écoute au casque. Donc, ils écoutent beaucoup de sons au casque et longtemps.
Ça veut dire quoi, écouter au casque? Je suis pas sûre. Ah oui, ok, d'accord. Donc, les écouteurs.
Les écouteurs, oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est problématique parce que il y a des alertes qui sont données, donc, où il faut donc réduire le nombre de décibels dans les écouteurs et écouter moins longtemps. Éviter aux enfants, justement, de dormir casqués.
Ok. Ça arrive, ça, ouais.
Oui.
Ok, bon. On en prend bonne note. J'espère que si vous êtes à la maison, vous avez pris des notes vous aussi. Donc merci, Madame Pascale Godet, enseignante, je le rappelle, en éducation musicale et doctorante en études et pratiques des arts. C'était vraiment vraiment un sujet d'étude passionnant. Donc bonne chance dans vos démarches par la suite.
Merci à vous de m'accueillir. De 13 à